Midi 30, 14h.
Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que la France a des idées, qu'elle sait les développer et que vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur la vente en vrac. La France est aujourd'hui le pays le plus développé en matière de vrac, c'est-à-dire la vente de produits sans emballage, riz, farine, céréales, épices, boissons, produits d'entretien, cosmétiques. En 4 ans, le marché du vrac a été multiplié par 5 et vous allez voir que là aussi, dans ce domaine, les Français innovent. Elle a 84 ans, c'est une imprimerie familiale et malgré la concurrence internationale, malgré le numérique, la manufacture d'Histoire de Pont a su se défendre et préserver l'emploi. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Vous avez besoin d'une voiture de location? Eh bien, faites-la livrer directement chez vous. C'est la solution, elle s'appelle Carlili. C'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Aujourd'hui, gros plan sur la vente en vrac, des bocaux en verre qui se remplissent de pâtes, de riz ou de céréales. Aucun emballage ne viendra remplir votre poubelle. Des acteurs français qui s'imposent sur ce marché qui représente 500 millions d'euros. Ça reste un marché de niche, mais il connaît une très très forte croissance. Et pour les accueillir dans le studio Lagardère, Sébastien Guyot de la rédaction d'Europe 1 qui est resté avec nous pour nous éclairer pendant toute l'émission.
Si je peux.
Mais bien sûr. Notre coach du jour, Mathieu Davy, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes avocat et fondateur de Call a Lawyer. Merci d'être avec nous. Plus d'un Français sur 3 achète des produits en vrac, or fruits et légumes frais. Et celles et ceux qui achètent en vrac achètent souvent du bio, des produits locaux en plus grande quantité que la moyenne. Ils sont souvent sensibles à l'environnement. Bonjour Franck Bonfils.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président fondateur d'un air d'ici qui commercialise Juste Bio. Juste Bio, vous l'avez créé il y a déjà 11 ans. Tout se passe sur votre site de Carpentras dans le Vaucluse, c'est ça?
Exactement.
Comment ça a démarré? Au début, je crois que vous vendiez des noix de coco râpées, de l'amande en poudre, du sésame, des grains de pavot. Et dès 2010, vous êtes lancé dans la vente en vrac?
Tout à fait. En fait, nous étions spécialisés dans les fruits secs que nous vendions en grande distribution. Et assez rapidement, nous voulions donner un vrai sens à l'entreprise, notamment en luttant contre le gaspillage alimentaire et contre les emballages superflus autour de ces fruits secs. Et par conséquent, nous avions envie d'essayer d'imposer une nouvelle manière de consommer dans un endroit qu'on n'attendait pas forcément.
C'est-à-dire dans les supermarchés, dans la grande distribution.
Exactement. Qui étaient mes clients à l'époque. On leur vendait des fruits secs en sachet. Et dès 2010, nous avons voulu tenter l'expérience de vendre ces mêmes produits en vrac.
Donc, dès le début, vous avez investi dans un meuble avec des silos, hein, vous savez, les mêmes que ceux qu'on voit aujourd'hui dans certains supermarchés. Des meubles que vous vouliez à tout prix faire fabriquer en France.
Parfaitement.
Donc, l'engagement était total dès le départ.
Exactement. En fait, l'engagement allait dans le sens de la lutte contre le gaspillage alimentaire d'une part, de la lutte contre les emballages d'autre part et de la volonté de démocratiser les produits bio. Grâce au vrac. Ça n'était pas simple puisque face à nous, nous avions tout un tas de barrières, notamment la casse, la vente qui était non assistée en grande distribution. Par conséquent, les enseignes avaient un peu de mal et il fallait leur proposer une solution clé en main. C'est ce que nous avons fait en faisant fabriquer des meubles avec ces trémies qui se sont démocratisées, qu'on voit un peu partout aujourd'hui.
Les petits meubles dans lesquels on voit les amandes, les bananes séchées, tout ça.
Exactement. Dès le début, nous voulions aller plus loin en proposant une offre avec notre personnel qui allait remplir pour anticiper les problématiques du vrac, notamment celle de la traçabilité, celle du nettoyage, celle de l'entretien des trémies. Et ce fut un vrai succès. Alors forcément, il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Mais c'est ça, il y a 10 ans, il y a un patron d'un magasin U à Beaulieu-sur-Mer qui vous a dit « Banco, on y va avec vous ».
Exactement. En fait, ce premier magasin...
Et on est en 2010. Hein.
Voilà, on est en 2010. C'était un petit magasin à Beaulieu-sur-Mer à l'époque qui m'a dit « Bon, ben moi, je vais tenter ». Donc, on a tenté. Je l'ai suivi personnellement. J'allais moi-même remplir les trémies pour constater que, en fait, tous ces freins qu'on se mettait n'étaient que virtuels puisque la vérité, c'est que le consommateur était prêt à consommer différemment. Il fallait simplement lui mener sur son lieu de consommation habituel. Aujourd'hui, rappelons que 8 Français sur 10 consomment en grande distribution, font leurs courses en grande distribution. Par conséquent, notre volonté chez Juste Bio, ça a été de dire « Ok, on dit qu'on ne peut pas changer les choses, mais en fait, on changera les choses si on a le choix de consommer différemment. » Donc, apportons ce choix-là avec la rigueur, avec la rigueur nécessaire pour le mettre en place. Et donc, ça a été le pari. Et très vite...
Ça a pris.
Alors, très vite, c'est une façon de dire, mais...
Combien de temps
ça a été un peu long.
Oui, parce qu'on vous regardait bizarrement du côté de la grande distribution, parce qu'il y a eu ce magasin U, mais après, ça a été long ou...
Alors non, parce que je me suis servi du succès de ce magasin. En revanche, nous étions une petite PME. Hein. Rappelons, là, nous sommes en 2010. En 2010, jusqu'en 2015, nous faisions à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là où en 2018, nous avons terminé l'année à 50 millions.
50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Hein. Sébastien, le marché du vrac.
Le marché du vrac, alors, comme vous le disiez, c'est quand même aujourd'hui un marché de niche parce que c'est 0,5% du marché de l'alimentation. Mais ça se développe. L'année dernière, un Français sur deux a acheté au moins une fois en vrac. C'était seulement 1 sur 3 il y a 10 ans. Et le nombre de magasins, c'est surtout ça, 100% vrac, a explosé en France. Il y en avait 18 en 2015. Il y en a près de 200 aujourd'hui. Et ce qui fait que la France est en tête des pays européens qui font du vrac.
Mathieu Davy, notre coach, que dites-vous ?
Alors, c'est très intéressant parce que vous dites que vous annoncez votre volonté de ne plus émettre le moindre déchet polluant, à compter, je crois, du 1er janvier 2020.
C'est ça.
Vous dites également que toutes vos gammes de snacking en sachets seront vendues sans plastique, avec de nouveaux sachets d'origine végétale, 100% biodégradables et compostables. Donc en fait, on garde quand même de l'emballage, finalement, pour certains produits, j'imagine, parce qu'on n'a pas le choix. Mais on est sur deux aspects.
Vous êtes sans emballage total.
Alors, en fait, on est sans emballage total sur le vrac. À l'exception d'une chose, c'est que lorsque l'on va remplir ces fameuses trémies, généralement, les produits sont conditionnés. Nous, on a pris un pari qui est assez fou, au final, c'est de dire, dès le départ, on propose au consommateur un produit qui est, c'est-à-dire le sachet qu'il peut utiliser pour remplir à la sortie de sa trémie. Celui-là est en craft, il est compostable, il est biodégradable et compostable.
Le sachet dans lequel on met les amandes, voilà, que l'on trouve dans la petite machine.
Exactement.
Que vous faites fabriquer.
Ça se voit, il est déjà... biodégradable et compostable. Nous avons pris le pari d'aller encore plus loin, c'est de dire que le vrac se doit d'avoir une démarche globale du sans emballage, c'est-à-dire même en amont. Donc, nous avons mis au point une technique qui permet d'avoir ce fameux sachet qui est d'origine végétale, donc il est biosourcé. Et ce sachet, celui avec lequel on va remplir la trémie, il va être biodégradable et compostable. C'est-à-dire que le magasin qui va remplir sa trémie avec ce sachet-là, il va pouvoir le mettre dans le bac à déchets végétaux, à déchets organiques.
Donc tout le processus industriel est rigoureusement contrôlé pour justement ne pas avoir de déchets. Est-ce qu'il y a à l'intérieur aussi de vos machines, là aussi vous êtes en train de vous lancer, je crois, vous êtes en train d'essayer de réintroduire l'amandier en Provence, enfin, vous êtes aussi sur les produits.
Exactement. En fait, chez Juste Bio, ce qu'on s'est dit, comme en 2010, on est arrivé sur un marché qui n'existait pas, il a fallu tout créer. Et je pense qu'il faut aller vraiment au-delà de simplement le vrac, au-delà de dire simplement du bio, il faut que le bio il soit contrôlé. Nous, on a pris le pari d'investir 15 millions d'euros dans une usine ultra-moderne à Carpentras, dans laquelle 100% des produits que nous mettons sur le marché sont contrôlés. Hein, 100% des produits sont contrôlés. On ne se satisfait pas seulement du logo bio. Dans laquelle 100% des produits seront conditionnés dans des emballages qui seront d'origine végétale, qui seront biosourcés. Et derrière, évidemment qu'on peut pas fournir du local dans tous les produits.
Hein.
On a plus de 135 références. Mais en revanche, on se doit d'être un acteur essentiel de l'économie locale. J'ai beaucoup de chance, c'est que j'habite dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse, à l'époque de mes grands-parents, il y avait des amandiers. Donc, allons-y. On essaie en tous les cas de réintroduire l'amandier bio de Provence sur 6 hectares à Saint-Rémy-de-Provence.
Vous avez une idée de l'économie réalisée en plastique?
150 tonnes par an, c'est-à-dire que le passage de la vente en vrac à économiser chez nous 150 tonnes de plastique par an. Vous imaginez à l'échelle d'une PME, à l'échelle d'une PME locale, ce que ça fait. Donc, c'est non seulement le vrac qui a permis ça, mais il faut aller vraiment plus loin.
Au-delà.
Voilà, exactement.
On reste ensemble, on continue à parler de la vente en vrac.
Il est 13h10.
Europe 1.
Une trentaine de magasins en France qui ne font que de la vente en vrac. Ça s'appelle Day by Day. Le fondateur est avec nous.
Quand l'épicerie et la droguerie se réinventent avec des innovations françaises, c'est le meilleur de la France bouge. Zoom sur des magasins entièrement dédiés à la vente en vrac, sans emballage.
Et oui, le succès des épiceries 100% vrac est grandissant. Et parmi ces épiceries, il y a la figure de proue, c'est la chaîne de magasins Day by Day. Bonjour Didier Henretta.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de My Retail Box qui commercialise Day by Day. 48 magasins cette année, 34 l'année dernière et une vingtaine d'ouvertures qui sont prévues pour l'année prochaine. Alors, dans les rayons de vos magasins, on trouve de tout, mais tout en vrac.
Ah oui, on trouve absolument tout en vrac. On a aujourd'hui à peu près 1000 références sur une trentaine de familles de produits avec quatre grands univers de consommation qui sont l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, la droguerie et l'hygiène. L'idée est de proposer une vraie alternative de consommation totalement en vrac.
C'est-à-dire qu'on rentre dans vos magasins, font quoi, 40 mètres carrés en moyenne ?
Ils sont plutôt autour de 60 maintenant.
Alors, 60 mètres carrés, donc ils ont grandi. Et ça se passe comme dans un supermarché classique ? On rentre, on prend un caddie, on a des bocaux. Comment on se sert chez vous ?
Alors, des caddies peut-être pas, parce que sur 60 mètres carrés, ça serait un peu encombrant. Mais on vient avec son panier et puis on va pouvoir avoir toutes les modalités possibles. Vous pouvez venir avec vos propres contenants que vous allez re-remplir. Vous les faites peser vide à l'entrée. Vous vous servez et puis on fera la tare au moment de la pesée finale, aussi bien vos bocaux que vos sachets. Mais vous pouvez aussi trouver sur place pour toute la partie alimentaire, évidemment les sachets Kraft dont parlait Franck tout à l'heure, exactement de la même logique. Et enfin, nous on met à disposition des bocaux gratuits, on a mis ça en place avec nos clients dès le début de l'aventure. Des clients qui nous ramènent
des
bocaux.
Des bocaux en verre ?
Ouais, les bocaux en verre, la confiture, la moutarde, les cornichons, tout ce que vous pouviez avant mettre potentiellement au recyclage, ben nous on préfère qu'ils soient réutilisés, réutilisés une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Quand ils arrivent chez nous, on les lave, on les désinfecte, on les pèse à vide et on vous les met gratuitement à disposition. Donc vous sortez du métro, vous sortez du boulot, vous n'avez pas forcément envie de rentrer chez vous chercher vos contenants, ben vous arrivez chez Day by Day et vous repartez avec vos produits dans des contenants prêts à mettre dans le placard.
Alors justement, vous nous en avez apporté des produits dans des contenants qu'on peut voir en direct sur europe1.fr.
Alors, vous voyez qu'ils sont tous différents. Ce sont ceux que nos clients nous ont apportés. Là, j'ai pris des petits volontairement.
Alors, il y a quoi dedans ?
Alors, il y a quoi dedans ? Vous avez des choses rigolotes. J'ai pris quelque chose d'emblématique, mais des choses rigolotes comme
du
de la
sucre,
noix de coco grillée, du sucre
coco.
Blanc. Pour montrer aussi des produits très très quotidiens. La lentille corail, dont on est très fiers de dire qu'elle est française, puisqu'on a travaillé avec notre producteur de champagne pour la ramener en France il y a 2 ans maintenant. Une extraordinaire pâte à tartiner sans huile.
Mais elle vient d'où cette pâte à... C'est-à-dire qu'elle est dans un immense saladier et on vient, on se
elle
sert
Elle est dans un pot, ouais, elle est dans un pot de 5 kilos et vous vous servez directement. Et elle est faite à Saint-Étienne, figurez-vous.
Elle vient d'où ? Comment elle est fabriquée ?
Elle est fabriquée par un chocolatier qui s'appelle Weiss, qui est à Saint-Étienne.
Donc vous choisissez.
Très très bon chocolatier. Oui, nous, on a cette particularité d'avoir des produits majoritairement français. 70% des produits qu'on propose sont directement produits en France. Et on est très très attentif à cette logique-là.
Alors justement Sébastien, alors là on a un échantillonnage de plein de produits, mais globalement on achète quoi plus généralement on achète quoi
alors, en vrac ? Il y a une étude qui a été diffusée il y a quelques jours au début du mois d'avril par Nielsen. Les Français qui achètent, 58% disent acheter des fruits oléagineux, donc les noix, les amandes, les noisettes, etc. 47% des fruits secs en vrac.
Ce que vend Franck Bonfils.
Voilà, mais il y a aussi des lentilles, des pois chiches et c'est plus rare, mais du liquide vaisselle. En revanche, 6%.
On en trouve chez Day by Day ?
Bien sûr. Bien sûr, tous les produits du quotidien.
En revanche, on ne trouve pas tout encore. L'huile d'olive, on ne peut pas en acheter pour des problèmes de contrefaçon, je crois. Et puis, les jus de fruits, les confitures, est-ce que vous en vendez ?
Non, pour l'instant non, parce qu'il y a des problèmes de conservation.
C'est des conditions d'hygiène
à régler.
Donc
là, sur ces produits-là, on y travaille. Nous, on a pour objectif de mettre tous les produits en vrac, sans exception. Il faut arriver à mettre tous les produits en vrac. Ça doit être un modèle alternatif. Donc, il faut qu'on travaille et qu'on développe des technos. Il faut qu'on trouve des solutions
techniques.
Et c'est en cours ? Oui, les développements sont en cours. J'espère y arriver je serre les doigts pour faire les premiers essais sur les jus de fruits dans le courant de l'année. Mais en tout état de cause, on y arrivera. Et on arrivera aussi à faire du lait végétal, des cosmétiques. On commence, moi j'ai travaillé avec une start-up depuis 2 ans pour mettre en vrac des crèmes cosmétiques qui, du fait du protocole, devraient être impossibles à la vente en vrac. On y est arrivé, on a développé une techno, on l'a mise en place et ça fonctionne très bien.
Sauf qu'aujourd'hui, sur le panier d'achat classique que vous prenez quand vous allez faire vos courses, on estime qu'il y a 30% des produits disponibles seulement dans les magasins en vrac. On en est encore loin des 100%.
Alors, en l'occurrence, ça dépend des magasins. Il se trouve que le modèle qu'on a construit avec 1000 références et 30 catégories de produits vous permet d'aller à plus de 90% des fonctions disponibles en vrac.
D'accord.
Mathieu David.
Alors, l'étiquette, c'est pas qu'un déchet. Le problème, c'est que l'étiquette, c'est aussi une garantie et une indication. Et évidemment que ce que vous faites est formidable et louable et doit être soutenu, mais il y a un hic, je fais un peu l'avocat du diable exprès.
Mais ça tombe bien, vous êtes avocat.
C'est que, voilà, je suis là pour ça, c'est que ce qui fait un peu peur aux consommateurs, c'est du coup ce problème de traçabilité. Oui. Parce qu'une étiquette, c'est aussi une marque, c'est une garantie, c'est toute une réglementation. Ouais. Et ce qui peut se poser à vous, c'est comment moi je peux m'assurer, c'est les questions que vous posez tout à l'heure, d'où vient ce produit, comment je sais que ce produit est vraiment bio.
La date limite de consommation.
La date de consommation, l'éventuel retrait si on découvre un problème plus tard, etc. Alors, comment vous gérez tout ça? Comment vous informez vos consommateurs? Et moi, en tant que client, comment est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que vous utilisez des solutions nouvelles type blockchain
le
pour pouvoir
suivre
le produit? Voilà.
Alors effectivement, vous soulevez deux questions différentes sur l'information. La première, c'est l'information du consommateur sur l'origine des produits, leur contenu, leur composition, leur marque éventuelle. Et puis l'autre, c'est la traçabilité et les éventuels retraits s'il venait à y avoir un problème. Alors, sur la traçabilité, et je crois que Franck l'exprimait tout à l'heure, on a tous aujourd'hui mis en place des procédures extrêmement complètes de traçabilité. Et j'ai un exemple très concret. On a un de nos fournisseurs d'une farine, en l'occurrence bio, de sarrasin, qui a eu, pour des raisons de datura, c'est une plante, qui s'est mélangée dans une production. En tout cas, il y avait des traces suspectes, qui nous a envoyé au mois de novembre, à 10h du matin, un ordre de retrait sur quelques lots, parmi tous ceux qu'on a pu commercialiser. À midi, on avait identifié les magasins à qui on en avait potentiellement livré. Ils étaient 12, c'est pas très compliqué. Et puis à 16h, ils étaient retirés de la vente.
Et vous avez pu prévenir les clients?
De bout en bout. Ah bah oui, on a mis l'affichette en même temps avec les lots concernés et la procédure a été mise en place entre 10h et 16h. Retirer des rayons. Donc c'est une procédure, aujourd'hui la traçabilité peut être complète. Alors on le fait parfois encore sur nos petites entreprises avec des outils qui sont des outils parfois manuels et qui sont un mix de techno et de manuel. Et puis on travaille tous à développer de plus en plus des outils techno complètement intégrés qui permettent d'aller vite, sûr et vérifiable. Ça c'est très important. Deuxième point, l'information consommateur. C'est un élément absolument clé. Alors il y a deux dimensions. Il y a d'abord la dimension réglementaire. Sur les produits en vrac, l'information consommateur obligatoire, réglementaire, est assez courte, finalement. On a beaucoup moins d'obligations, il n'y a qu'à voir les informations que vous avez sur vos étals de marché, on a beaucoup moins d'obligations que sur le prix emballé. Nous, on a décidé dès le départ de donner toute l'information et complète. Et
pour ça, rassurer les clients.
Ouais, pour renseigner les clients, il nous semblait indispensable que ne donner que l'origine, la désignation et les allergènes, c'est comme on dit, c'est un peu court, jeune homme. Donc on est allé jusqu'au bout des choses et on a donné systématiquement la marque, le fabricant, systématiquement sur l'étiquette, la composition intégrale, au-delà même des allergènes, les valeurs nutritionnelles lorsque c'est de l'alimentaire, et puis le numéro de lot, l'affichage de la traçabilité intégrale. Donc vous avez tous ces éléments qui sont présents, et pour ça, dès l'origine, on a construit un système d'information dédié.
Et en termes d'hygiène, par exemple, cette pâte à tartiner, je la verse dans mon pot avec une cuillère, avec quelle cuillère?
Avec une spatule qui lui est dédiée, et qu'elle avait tous les
jours. Et qu'on ne peut pas mélanger avec une autre confiture qui est à côté?
Non.
Donc tout est rigoureusement vérifié.
Ouais, tout est rigoureusement vérifié et on a même mis en place un système qui nous permet de laver les trémies de présentation ou les bacs de présentation à chaque fois qu'ils sont vides. Ils sont lavés,
désinfectés. Donc au fur et à mesure, c'est lavé.
Systématiquement.
On reste ensemble sur Europe 1 à parler de la vente en vrac. Il est 13h20.
Europe 1.
Le premier drive zéro déchet au monde est français, il est à Toulouse. Ça s'appelle le drive tout nu. Restez avec nous et c'est ça, la France qui bouge.
C'est le meilleur de la France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et pourquoi pas retirer ses courses sans sac plastique polluant directement dans le coffre de sa voiture.
Et c'est l'histoire d'un couple qui rêve d'un monde sans emballage. et ils sont persuadés que c'est possible. Alors d'abord, il y a le fondateur, c'est en passant beaucoup de temps auprès de ses grands-parents, réfugiés espagnols, ouvriers agricoles avec des faibles revenus, qu'il devient le pro du zéro gâchis, zéro déchet. Bonjour Pierre Géraud.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur du Drive Tout Nu. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Et alors vous, vous avez grandi avec cette mentalité que tout pouvait se réutiliser, même les emballages plastiques.
Tout à fait. Moi, quand je passais du temps avec mes grands-parents, donc c'était beaucoup de temps quand j'étais plus jeune, je voyais la barquette de jambon en plastique être réutilisée en barquette de en magnifique plateau de fromage. Ou alors dernièrement, je suis allé chez mon grand-père, j'ai vu qu'il réutilisait les petites étiquettes qu'il y a sur les fruits, il s'en servait pour faire du scotch. Voilà, c'est le top du top de l'inspiration sur le zéro déchet et il réutilise absolument tout ce qui est à sa portée.
Et donc, en voyant, en assistant à ce comportement, vous vous êtes dit, moi, je vais l'appliquer aussi dans la vie.
Alors, quand j'étais petit, bon, pour moi, c'était absolument naturel, en fait. Et j'ai eu une sorte de déclic quand j'ai fait mes stages. Donc, je suis ingénieur agro, j'ai fait des stages en pays dits en voie de développement. Et dans ces pays-là, les systèmes de collecte de déchets sont moins bien organisés qu'en Occident. Donc, on voit très concrètement les déchets s'accumuler dans la rue. Et je me suis dit, si ici, où les gens consomment moins que nous et réutilisent plus que nous, ils produisent autant de déchets, combien nous, on en produit et qu'on ne voit pas, parce qu'ils sont bien cachés via un système de collecte de déchets qui est hyper bien organisé. Et les chiffres, ils sont édifiants, ils ont pas mal été dans la presse ces derniers temps. Un Français produit en moyenne 590 kilos de déchets par an, et 50% de ces déchets, ce sont des déchets d'emballage des produits dits de grande consommation, donc l'alimentaire, produits cosmétiques d'hygiène et les produits ménagers. Et face à ce constat-là, on s'est dit, tiens, mais pourquoi les gens ne consommeraient pas plus zéro déchet? Et la réponse qu'on a trouvée à ça, c'est qu'en fait, le zéro déchet, c'est pas assez simple, c'est presque trop un acte militant, entre guillemets, c'est jamais trop, mais ça rend pas les choses assez simples pour que ce soit une consommation quotidienne.
Donc vous avez décidé de le simplifier et de le mettre en place.
De le simplifier à son extrême.
Justement, quand vous avez rencontré celle qui deviendra votre épouse, Salomé, qui est votre associée, vous vous êtes dit, on va monter le Drive Zéro Déchet. Alors, c'est quoi le Drive Zéro Déchet?
Alors, le Drive Zéro Déchet, le Drive Tout Nu, c'est un drive où les clients font leurs courses sur Internet comme dans un drive classique et ils choisissent l'horaire et le lieu de retrait de leur choix lorsqu'ils payent.
Sur le site Internet?
Sur le site Internet.
DriveToNu.com.
Le DriveToNu.com. Et ensuite, nous, on conditionne tous les produits dans des emballages réutilisables, soit des bocaux en verre, soit des sacs en toile. Et donc, quand le client arrive au Drive Tout Nu, il a déjà sa commande qui est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre dans le coffre de son véhicule ou dans son vélo ou dans le tram pour qu'il puisse rentrer chez lui avec toutes ses courses.
Alors, les produits qu'il achète sur votre site internet, ce sont des produits que vous allez vous approvisionner où?
Alors, on s'approvisionne selon trois critères principaux. Le premier critère, bien évidemment, c'est que les fournisseurs ou les producteurs nous livrent en vrac. Donc, il y a plusieurs vracs. Il y a le vrac zéro déchet complet. Par exemple, les poireaux, ils sont livrés dans une cagette qu'on rend aux producteurs. Après, il y a aussi des produits qui sont livrés conditionnés, donc dans des sacs de 5 à 25, parfois 50 kilos, et qu'ensuite on retransmet, on retransvase dans des bocaux qui ont été au préalable pasteurisés par nos soins. Et en dernier lieu, il y a aussi des produits qui sont déjà livrés par nos producteurs dans des emballages réutilisables, donc principalement des sacs, des bocaux en verre.
Donc, il récupère sa commande.
Il récupère sa commande et puis il rentre chez lui, il les utilise.
Et il vous les rapporte.
Et voilà, lorsqu'il a fini d'utiliser, lorsqu'il a fini son produit, il nous rapporte le contenant. Et pour chaque contenant rapporté, il est crédité de 10 centimes de bon d'achat sur son compte client.
Mathieu Davy, que dit notre coach?
Oui, ça fait penser à ces chiffres totalement dingues. Vous savez qu'en France, chaque seconde, 3000 emballages ménagers sont jetés à la poubelle. Ça veut dire 5 millions de tonnes par an. Chiffre complètement dingue. Et merci à vous aussi de contribuer à limiter ça. Alors moi, je, au-delà de ce qui a été dit, ce que je trouve amusant, c'est que vous utilisez un terme humain, le drive tout nu. Ce qui veut dire peut-être qu'on devrait aussi s'interroger sur le fait de savoir si nos habits ne sont pas un peu des déchets et qu'il serait temps de passer au naturisme.
Prochain concept.
Voilà, c'est peut-être une réflexion plus globale sur l'homme et sur notre manière de consommer. Voilà. Mais c'est drôle de parler du tout nu pour finalement des aliments et d'humaniser un peu ça. Parce que je pense qu'on est vraiment dans l'hygiène, on est vraiment dans la santé et qu'effectivement, et dans la responsabilité aussi. Voilà, donc pour moi, je vous remercie de ça. Merci. J'aimerais juste comprendre le mécanisme de la consigne, c'est-à-dire du remboursement des 10 centimes par contenant. C'est une obligation? Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce que vous forcez finalement les gens à être éco-responsables aussi au niveau de leur manière d'utiliser leur panier?
Non, on croise très fort les doigts pour qu'ils nous rapportent les contenants parce qu'on en a besoin, mais on ne les force pas, non, il n'y a pas de contrainte à ce qu'ils nous les rapportent. En fait, la consigne inversée, le principe de la consigne inversée, c'est vraiment une incitation pour que les clients nous rapportent les contenants vides. En fait, tout ça, ça part du fait qu'une consigne, à la base, on trouvait ça trop engageant pour vraiment démocratiser le zéro déchet. En fait, la consigne, c'est-à-dire qu'on va consigner 1 euro par bocal. Donc, si un client a pris 20 produits, ce qui n'est pas très gros, au final, il a 20 euros de consigne en plus à mettre à la fin de son panier. C'est trop engageant, il ne va pas le faire. Donc, nous, on prend le pari qu'en fait, on va mettre à disposition les contenants réutilisables aux clients et qu'ils vont nous les rapporter. Et pour un peu incentiver un petit peu plus, on propose ces 10 centimes de bon d'achat par contenant rapporté.
Alors, votre drive tout nu, votre drive zéro déchet, est né en décembre au nord de Toulouse, à Beauzelle. Hein. C'est un emplacement en zone périurbaine. C'est une volonté ou c'est une histoire de prix, tout simplement, d'emplacement? Parce que vous, par exemple, Débaïdé, on est en centre-ville.
On est, dans les centres urbains denses.
Mais alors vous, pour le drive tout nu, c'était voulu?
C'était une intuition au départ, puisque il y a des épiceries zéro déchet qui existent en centre-ville, les Day by Day par exemple, mais il y en a d'autres. Et dans le périurbain, il y a très peu de solutions au final. Donc on avait déjà ciblé la zone périurbaine. Il faut savoir qu'en Occitanie, 56% des actifs vivent dans le périurbain. Au-delà de ça, en fait, lors de notre phase de test, on a fait une phase de test de février à mai 2018. On a testé différentes configurations urbaines en drive. Un drive un peu simplifié, mais c'était à peu près la même chose. Et on a très bien identifié que les zones du périurbain, c'était elles qui répondaient le mieux à ce concept de drive zéro déchet, puisqu'en fait, les gens utilisent la voiture. Ils n'ont pas trop d'autres choix, puisqu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport en commun. Bon, nous, on est au terminus du tram, mais c'est un peu anecdotique. Et il y a peu de solutions. Les gens, ils ont besoin d'amener, je sais pas, leurs enfants au rugby le mercredi après-midi. Ils passent au drive tout nu en rentrant, et puis tout le monde a son super gâteau pour le goûter, quoi.
On continue de parler de la vente en vrac. Qui sont ces consommateurs et le vrac est-il une mode?
Il est 13h29.
Europe 1.
Venez, on vous attend. Vos témoignages, vos questions, nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. À tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Le Meilleur de la France bouge avec Elisabeth Assayag et ses invités et on parle d'une initiative éco-responsable, l'achat des produits en vrac.
Nous sommes toujours avec le coach du jour, Mathieu Davy, avocat et fondateur de Call a Lawyer, Sébastien Guyot de la rédaction d'Europe 1 et avec nous pour en parler, Franck Bonfils, le président fondateur de Juste Bio, spécialisé dans la fabrication et la vente de fruits secs bio dans la grande distribution. Didier Andretta, le président de My Retail Box, qui commercialise les magasins 100% vrac Day by Day. Et Pierre Giraud, le cofondateur du Drive Tout Nu, le premier drive zéro déchet. Alors, on a aussi une question de Marc qui nous dit « Comment se mettre à l'achat en vrac alors la grande distribution se lance très souvent dans des opérations gros volume ?» Qui veut répondre à la question de Marc ?
Peut-être moi, en tant que spécialiste de la grande distribution.
Oui, Franck Bonfils, oui, allez-y.
Il y a une vraie différence quand même. Hein. Gros volume, c'est emballage. Hein, on a toujours de l'emballage autour. La vente en vrac, le vrac, c'est vraiment n'acheter que ce dont on a besoin.
Donc c'est revenir plus souvent dans le magasin finalement, la vente en vrac.
Alors
c'est pas aller une fois par mois faire ses grosses courses.
Pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi acheter 100 grammes d'amandes alors qu'il m'en faut 80 grammes d'amandes en poudre pour faire un gâteau?
Mais parfois, c'est pour des raisons pratiques. Une famille nombreuse n'a pas forcément envie de se déplacer tous les jours, acheter juste ce dont elle a besoin.
Mais dans ce cas-là, elle anticipe et elle achète juste ce dont elle a besoin pour la semaine qui vient. Mais le vrac, c'est un état d'esprit, la réduction du gaspillage alimentaire d'une part, et pourquoi d'autre part se laisser imposer un volume précis par un industriel parce qu'il a des impératifs industriels de conditionner tel produit par 250 grammes parce que sa ligne, c'est faire du 250 grammes. Aujourd'hui, il y a eu une évolution de la consommation qui fait qu'on a des familles monoparentales, on a des gens seuls qui ont des habitudes de consommation qui sont bien différente de celle d'il y a 10-15 ans. Et or, l'industrie agroalimentaire, elle, ne s'est pas adaptée à ça.
Alors justement, Sébastien, qui achète en vrac? Parce que là, Franck Bonfils nous dit que c'est un état d'esprit.
Alors ce sont plutôt des jeunes, hein, plutôt les moins de 35 ans aujourd'hui en France, selon les études. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a un Français sur trois, 37%, qui dit acheter en vrac. Donc vous avez encore des consommateurs potentiels, messieurs.
Alors, des moins de 35 ans, mais alors, est-ce que la vente en vrac, est-ce qu'on peut parler de mode? Est-ce que c'est un truc de bobo? Oui, bien sûr, évidemment, Pierre Giraud, le cofondateur du Drive tout nu.
Donc, nous, par rapport aux tranches d'âge, déjà, on constate qu'on n'est pas du tout dans ces clous-là. On a plutôt une clientèle qui est entre 30 et 50 ans. Mm-hmm. Donc, on sort déjà un petit peu
de
la moyenne. Mm-hmm. Et également, par rapport au préjugé que ce serait une méthode de consommer de bobo, on a vraiment tout type de personnes qui viennent au Drive tout nu. Et d'ailleurs, c'était aussi l'ambition du Drive tout nu que de démocratiser le zéro déchet en le rendant plus simple et en sortant un petit peu des codes, entre guillemets, bobos,
minimalistes, etc.
Pour moi, c'est quelque chose qui va s'ancrer.
Didier Noreta d'Ebaïdé, vous aussi, vous pensez chose.
C'est quelque chose qui va réellement s'ancrer. La condition, c'est de faire l'offre la plus complète possible, et vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a tout? À partir du moment où on donne la possibilité d'acheter juste la quantité dont on a besoin, dans les prix traditionnels, c'est aussi une des conditions, hein, c'est de pas avoir des prix qui soient explosifs. Si on se met dans les prix traditionnels de ce qu'on a l'habitude de trouver, il n'y a pas de raison que le client ne comprenne pas.
Et les clients,
ils sont comme nous, ils sont pas. Ah non, c'est pas. Quand vous le faites bien, c'est pas plus cher. Ça doit être le même prix que dans votre supermarché ou dans votre hypermarché traditionnel à caractéristiques comparables.
Sébastien, vous avez des données.
Alors là-dessus, il y a débat sur est-ce que c'est plus cher, moins cher. L'ADEME, l'Agence pour l'environnement, nous dit qu'a priori, c'est même moins cher de 10 à 45% parce que finalement, on supprime le prix du packaging, on supprime le prix du marketing en amont et le coût de la gestion des déchets en aval. Après, on a vu des exemples, hein, notamment chez Carrefour Bio, il y a quelqu'un qui avait vu que le riz était 65% plus cher que sous emballage. Et il s'était indigné. L'explication du groupe, c'était le riz en vrac n'est pas du riz Carrefour Bio. Il y a plus d'intermédiaires, donc forcément, c'est plus cher. Donc voilà, il y a débat sur les prix en vrac.
Comment fait-on pour tout ce qui est produits frais?
Les produits frais en vrac, ça n'a jamais disparu. Ça s'appelle un boucher, un primeur, un charcutier, un fromager.
Mais chez vous, par exemple, on en trouve?
Nous, on commercialise que les produits non frais, hein, que tout ce qui va dans le placard. En gros, quand vous consommez au quotidien, il y a ce qui va dans le frigo, ce qui va dans le placard, alimentaire ou non. Ce qui va dans le frigo, ça existe déjà. On n'avait pas grand-chose, nous, à apporter. Tout le monde peut trouver un bon primeur, tout le monde peut trouver un bon boucher s'il mange de la viande, tout le monde peut trouver un bon fromager. Donc, et en plus, aujourd'hui, la plupart des commerces commencent à accepter votre propre contenant. Vous pouvez venir avec votre contenant. Donc, si vous
mais par exemple, notre propre contenant, par exemple, pour un produit périssable, comment on fait?
Parce que vous venez chez votre boucher avec votre boîte, vous lui tendez votre boîte, il va la peser et il va mettre le produit dedans. Il y en a encore qui sont réticents parce qu'ils ne savent pas que la réglementation le leur permet. Ils pensent que la réglementation ne leur permet pas et pour des raisons de responsabilité, ils ne le font pas. Sauf que vous avez entendu que le mois dernier, un grand distributeur a pris le parti de le faire sur l'ensemble de ses magasins et que ça va tirer tout le monde vers le haut.
Mathieu Davy, notre coach.
Alors, c'est vrai qu'on est un peu sur une contradiction entre l'emballage et le vrac. Vous avez suivi que depuis février 2019, une quinzaine de groupes, Carrefour, Casino, Coca-Cola, avec le ministère de la Transition écologique, ont signé le pacte national sur les emballages plastiques. Et leur objectif, c'est d'atteindre 100% de déchets recyclables. Ceci dit, c'est aussi admettre qu'on est victime et qu'on est dépendant du déchet, même recyclable. Et est-ce qu'il ne faut pas se dire que c'est finalement une initiative insuffisante, parce qu'on pourrait tout simplement provoquer le vrac? Vous qui êtes les spécialistes du vrac, vous pensez quoi de cette pseudo... Enfin, c'est une évolution naturelle au niveau mondial que de faire ce pacte, mais est-ce que ce n'est pas non plus un piège?
Alors,
Franck Bonfils, oui, le président fondateur de Juste Bio.
Alors, on est plutôt pas mal placé sur le sujet de l'emballage. On a eu la visite justement de Brune Poirson, notre ministre de la Transition écologique, qui venait saluer la démarche qu'on avait de dire, et je le disais précédemment, le vrac c'est bien, mais c'est pas suffisant pour réduire totalement l'emballage. Là, le produit, il sera toujours conditionné en amont. Donc, c'est à nous, industriels, de nous positionner très fort sur la recherche, sur le développement, pour basculer l'emballage classique tel qu'on le connaît en emballage biosourcé. Aujourd'hui, c'est possible. On est l'illustration qu'une petite PME du Vaucluse arrive à prendre le pari de basculer 80% de son offre en juin 2019 en emballage biosourcé et 100% des produits que nous vendrons au 1er janvier 2020 seront dans des emballages biosourcés ou à défaut recyclables, donc issus de filières carton. Et pour nos sachets, ils seront biodégradables et compostables. Donc en gros, il y aura plus de traces.
Donc c'est le mot de la fin. Le vrac, c'est bien, mais c'est pas suffisant encore pour réduire les emballages. Merci à vous trois d'être venus sur Europe 1 nous parler de la vente en vrac.
Il est 13h40. Europe 1.
C'est l'histoire d'une entreprise familiale qui a survécu aux écrans, au numérique, qui a su prendre un virage haut de gamme. C'est la manufacture d'Histoire de Pont et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, c'est le meilleur de la France bouge et on s'intéresse à une entreprise qui va bien, c'est la manufacture d'Histoire des Deux Ponts.
C'est une imprimerie qui est née en 1935. C'est une imprimerie basée dans la vallée de l'Isère, près de Grenoble, à qui il a fallu beaucoup de courage et d'énergie pour ne pas laisser mourir cette imprimerie familiale. Bonjour Laurent Caillat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le PDG de la manufacture d'Histoire de Pont et vous êtes le petit-fils du fondateur.
Exactement, c'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise à l'âge de 23 ans exactement. Il était né en 1912. Et on dit souvent, les gens ont la vie difficile, et mon grand-père, il était orphelin, il avait perdu ses parents après sa naissance, et malgré tout, il a appris un beau métier à l'âge de 14 ans, et à l'âge de 23 ans, il est devenu son propre patron, comme il m'a toujours dit. J'ai toujours rêvé d'être mon propre patron, et il a créé l'imprimerie des Deux Ponts, donc dans la vallée de l'Isère, en 1935. Donc ça fait 84 ans que nous exerçons ce beau métier.
Et l'entreprise n'est jamais sortie de la famille, hein ? Vous êtes toujours associé avec
votre
frère ?
Non, jamais, toujours associé avec mon frère. Moi, j'ai racheté l'affaire à mon père, aussi à l'âge de 23 ans, en 88. Voilà, on était
vous aviez-vous aussi envie de vous inscrire dans cette imprimerie ?
Oui, mon grand-père avait fait un atelier, une manufacture, et après, il avait fait un peu d'immobilier. Donc, on est né dans un des immeubles qui était au-dessus des ateliers. Et moi, depuis tout petit à l'école, on me demande « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et j'écrivais « patron imprimeur ». Bon, les profs, patrons, c'était pas trop leur truc, ça a un peu évolué, oui. Mais bon, les choses étaient un peu plus compliquées.
Alors, comment une imprimerie vit encore ? Parce que ça n'a pas toujours été simple, hein. On parle de papier, avec l'arrivée du numérique, comment on fait pour exister ?
Oui, je dirais que l'imprimerie est morte, vive l'imprimerie, c'est-à-dire qu'une forme d'imprimerie a disparu, c'est-à-dire une imprimerie à grande échelle, une imprimerie de volume, n'a pas de sens, le digital a pris la place. Il y a plein de médias, dont la radio, qui sont des médias formidables, mais je pense que tous ces médias sont complémentaires. Donc nous, on doit avoir un positionnement, et quand on se présente comme, on se présente plus comme imprimerie, parce qu'on ne fait pas que de l'imprimerie, on a 34 métiers, donc on se présente comme une manufacture, et on va dire qu'on est Deux Ponts, manufacture d'histoire, ça veut dire qu'on aide nos clients à raconter leurs histoires marketing, donc grâce à tous nos métiers, vraiment on va chercher l'essence même des métiers artisanaux, en mode industriel, parce qu'il faut être compétitif aussi avec la compétition mondiale, mais on cherche vraiment à avoir des supports, des documents qui font passer une émotion.
Alors comment vous avez muté justement ? Comment vous vous êtes transformé ? Vous dites que vous n'êtes plus une imprimerie, vous êtes une manufacture. Vous faites quoi exactement ? Vous travaillez, je crois, vous êtes positionné dans le haut de gamme ?
Dans le très haut de gamme, oui. Dès 96, en fait, on a pris le parti pris. On est monté à la capitale, on a quitté notre vallée de l'Isère parce qu'il n'y avait plus assez de travail dans la vallée. Donc on est monté à la capitale et on a commencé à travailler avec Vuitton, avec toutes les maisons de la place Vendôme.
Les grandes marques de luxe.
Toutes les grandes marques de luxe. Donc le groupe Kering, le groupe LVMH, le groupe Richemont, tous les grands hôtels, le Ritz.
Et là, vous fabriquez pour eux des catalogues, des dépliants
Oui, des magazines, des revues, les catalogues, les dossiers de presse, les invitations pour les défilés. Voilà, tout ce qui va contribuer à valoriser la marque.
Avec du papier de prestige, un peu du papier haut de gamme.
Oui, on va toujours chercher du papier noble, du papier bio, avec une traçabilité. Nous, on était le premier imprimeur, j'ai écouté un peu votre émission d'avant, on était le premier imprimeur avec Tuzo 14001 en 2003 en France. En 2003, les gens ne se posaient pas trop la question. Mm-hmm. Donc nous, on ne génère aucun déchet. Il n'y a aucun déchet. On n'a pas de camion poubelle qui passe chez nous. Donc tout est traité. Et ça, c'est un des critères importants. Il y a des groupes. Tous les grands groupes de luxe sont vraiment très, très à cheval là-dessus et font très attention.
Vous disiez que vous étiez une manufacture avec plusieurs métiers. Vous avez été labellisée entreprise du patrimoine vivant, EPV. Alors, quels sont ces métiers à la manufacture d'Histoire de Pont ? On trouve quoi comme métier ?
Alors, les métiers, ils sont historiques. À la limite, quelque part, on fait les mêmes métiers que mon grand-père faisait, mais on y a rajouté de l'expérience, du savoir-faire. On les a fait évoluer.
Par exemple ?
La reliure d'art, par exemple, où on a remis au goût du jour la typographie. Mon grand-père était maître imprimeur, il était typographe. Il avait appris ce métier. Pendant longtemps, après l'offset est arrivé, c'est des procédés techniques, on a remis la typographie au goût du jour. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des anciens métiers, on a intégré chez nous, quand on dit qu'on est manufacture, on a 34 métiers intégrés, et tous ces métiers contribuent à rendre beaucoup plus noble le produit imprimé, c'est-à-dire l'outil de communication.
Ils sont tous concentrés au même endroit ?
Oui, tous au même endroit. On a 13 000 mètres carrés couverts. Mmh. Voilà, c'est assez grand, on a beaucoup, beaucoup de matériel.
Et
voilà.
Tous ces métiers sont réunis. Il y a du travail chez vous ?
Oui.
Il y a de l'emploi ?
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et c'est important, surtout de la formation.
Vous cherchez quoi, par exemple ?
Ah ben nous, si demain vous nous trouvez, moi je sais pas, un relieur, un sérigraphe, conducteur offset, des gens de métiers techniques, nous on appelle ça des métiers sous tension. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à recruter.
Mathieu Davy.
Bah, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on est un peu... C'est un voyage dans le temps. Là, c'est un peu le berlutis de l'impression. Mmh. Vous êtes, je crois que vous avez même remporté le cadre d'or en 2016.
Exactement.
Je crois que c'est la récompense suprême du métier. Alors, quand on voit les objets que vous créez, c'est absolument
magnifique.
Qu'on peut
magnifique. Voir sur Europe 1.fr en
mais
direct.
Mais effectivement, est-ce qu'on n'est pas... on vous parlait de transformation numérique, on parlait d'environnement, et justement, et peut-être de la main-d'œuvre que vous cherchez. Est-ce que vous allez trouver des compétences à un moment donné d'un métier qui peut-être appartient à une vieille tradition, mais est-ce qu'elle peut continuer à exister ? Est-ce qu'elle peut attirer les jeunes ? Alors qu'elle peut justement interpeller sur et l'écologie et le numérique. Voilà.
Oui, bien sûr, je pense que c'est important aussi de donner de la valeur aux choses, de donner une possibilité de carrière dans nos métiers. C'est vrai que c'est des vrais métiers, et ce qu'on fait, c'est des choses vraies. C'est fait par la main de l'homme.
Des métiers anciens et vous fabriquez des choses très actuelles.
Très modernes, très contemporaines.
Qui peuvent faire envie à des jeunes.
Oui, voilà, voilà. Et on a fait un catalogue pour Supreme, par exemple, qui est une marque très connue. Voilà, et ça, les gens adorent le média papier parce que ça donne une émotion et aussi c'est une surprise. On peut à chaque fois découvrir quelque chose au-delà de l'émotion. Il y a la partie surprise qui rentre en ligne de compte. Et le papier, à son positionnement, il s'est réduit. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que c'est une production de masse. Au contraire, c'est une production de niche. Et quand vous parlez du label EPV, qui est un label formidable, on remercie l'État de l'avoir mis en place, c'est vraiment travailler l'artisanat, l'industrie d'excellence.
Avec des savoir-faire français. Merci Laurent Caillat, merci d'être venu nous présenter la manufacture d'Histoire de Pont, d'avoir su nous en parler avec tant de passion. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Merci à vous.
Il est 13h49.
Europe 1.
Vous voulez louer une voiture livrée directement à la maison ? Car Lily le fait, c'est la solution d'aujourd'hui choisie par Sébastien Guyot dans La France Bouge.
Vous écoutez La France Bouge sur Europe 1. À présent, zoom sur une solution ingénieuse pour louer un véhicule à domicile avec Sébastien Guyot.
Bah oui, vous n'avez pas envie de faire appel au loueur de voiture parce qu'il faut se déplacer. Vous n'avez pas non plus envie de faire appel au service de location entre particuliers. Eh bien, entre ces deux choix, Sébastien, il existe une start-up qui s'appelle Carlily.
Oui, plus besoin de vous déplacer justement. Tout passe par une plateforme numérique et on vous livre votre véhicule de location quasi neuf à domicile. Retour où vous le souhaitez, même tard le soir. Bonjour Vincent Moindreau.
Bonjour.
Vous êtes donc le patron de Carlily. Vous avez lancé la start-up en 2015 et vous venez d'être récompensé d'ailleurs, je crois, la semaine dernière par le Fonds Régional d'Île-de-France pour le tourisme.
Absolument.
Félicitations. D'abord, un mot du concept. On ne se déplace pas pour aller récupérer son véhicule de location, c'est la voiture qui vient à nous.
Oui, c'est ça exactement. Nous, on surfe une tendance. Il y a un tiers des automobilistes urbains qui se déclarent prêts à abandonner leur véhicule, à ne plus posséder de voiture, à ne plus l'utiliser. Et donc, on a une alternative à la propriété qui est Carlily. En fait, très simplement, vous choisissez sur le site le véhicule que vous voulez, parmi tout un choix d'utilitaires ou de voitures traditionnelles. Et le véhicule que vous avez choisi va vous être livré en bas de chez vous.
Parce que vous appelez des car-sitters, c'est qui ?
Exactement. Les car-sitters, c'est la vitrine de Carlily, en fait. C'est des indépendants, globalement beaucoup d'étudiants, qui travaillent pour gagner un petit peu d'argent et dont le job est d'aller chercher les véhicules à l'endroit où ils sont habituellement stationnés, les déposer à nos utilisateurs, à l'aller et au retour, puisque quand on rentre, on va rendre son véhicule également à un car-sitter, de venir le récupérer, de le ramener sur le parking où il est habituellement stationné.
D'accord, vous avez une flotte de combien de véhicules ?
En fait, on n'a pas de flotte en propre. C'est ça qui est assez extraordinaire chez Carlily, c'est qu'on ne fait que agréger des flottes de partenaires distributeurs. Alors ça peut être des petites agences de location indépendantes, qu'on essaye de faire travailler, qui sont un peu de mal en ce moment et à qui on fournit du business, ou ça peut être des réseaux nationaux de location de voitures qui nous mettent à disposition une partie de leur flotte.
Donc les voitures sont quasi neuves ? Elles sont en bon état ?
Les voitures sont toutes récentes, elles ont moins de 12 mois quoi, dans l'absolu, et elles sont très sécurisantes, elles sont surtout nettoyées entre chaque location et entretenues par des experts de l'automobile.
Alors comment se passe l'état des lieux par exemple ?
Alors l'état des lieux, c'est quand le car-sitter arrive face à vous, il va avec son smartphone prendre une trentaine de photos et vous les faire valider et vous allez les signer, vous allez faire une signature en fait digitale sur le smartphone pour valider cet état des lieux.
Ça veut dire que si je rentre très tard le soir avec ma voiture, ce qui n'était pas prévu, je peux vous prévenir et rendre la voiture à minuit et en pleine nuit, on fait l'état des lieux du retour ?
Alors en fait, vous pouvez le faire, mais on ne va pas venir en pleine nuit. On va revenir le lendemain matin la récupérer. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des véhicules qu'on opère sont des véhicules dits connectés, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'échange de clés. Vous pouvez très bien imaginer déposer votre véhicule en bas de chez vous et que le car sitter vienne le lendemain matin avec un smartphone ouvrir la voiture, faire l'état des lieux et partir.
C'est quoi comme voiture, les voitures connectées ?
Des voitures connectées, pardon, c'est des voitures qui sont équipées d'un boîtier qu'on vient pluguer en fait dans la voiture et qui fait qu'il n'y a plus d'échange de clés.
Donc toutes vos voitures sont munies de ce boîtier, la plupart ?
Pas toutes les voitures, on s'adosse à des flottes de partenaires, mais la transition est là et la plupart des véhicules sont équipés maintenant.
Mathieu Davy.
Bah là, vous répondez évidemment à une évolution et à un besoin. On est OK maintenant pour abandonner la voiture à Paris et dans les grandes villes parce qu'on peut avoir ce type de solution et que justement la voiture vient à nous, notamment quand on a des enfants et des bagages pour aller par exemple en week-end en Normandie ou ailleurs. Donc c'est une vraie réponse à ce besoin et je pense que ça va pouvoir aider aussi à désengorger la voiture qui ne sert plus à rien, c'est-à-dire l'automobiliste parisien. Ceci dit, effectivement, le mécanisme de faire passer par des car-sitters, la notion de responsabilité, si justement il y a un litige sur l'état des lieux, et qu'il supporte. Est-ce que vous le supportez ou alors est-ce qu'il y a une décharge de responsabilité de votre part ou in fine, vous retournez vers le conducteur ? Parce que vous avez rajouté un intermédiaire qu'on n'a pas d'habitude. D'habitude, on va à l'agence, on fait le tour, mais ce sont des professionnels. Là, vos car-sitters, si je comprends bien, ce sont des étudiants. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est des salariés, des auto-entrepreneurs, des livre-boys. Voilà. Comment ça se passe ? Parce que moi, si je rends la voiture et que mon car-sitter m'a dit « c'est bon, on est OK », mais que votre flotte dit « ah non, c'est pas OK du tout » parce que l'aile gauche et voilé.
Moi, comment vous avez prévu ça ?
Non, mais je vais vous répondre par une question. Quand vous êtes chez un loueur, en agence, je ne sais pas, vos dernières expériences de location, à chaque fois, l'état des lieux a été bien fait ?
Non, vous avez raison.
Voilà. Parce que la plupart du temps, en fait, c'est vous-même qui signez le papier en agence. Donc, c'est des process qui sont très traditionnels, voire un peu moyenâgeux. Nous, vous avez une personne qui est dédiée à vous et qui a un certain nombre d'étapes à franchir pour pouvoir notamment ouvrir le véhicule. Si elle fait mal l'état des lieux, si l'état des lieux n'est pas fait, on n'a pas les étapes d'après. Donc on est très vigilant en fait sur le respect du process. Et évidemment, l'utilisateur final va plutôt être en sécurité avec nous.
Et l'utilisateur, justement, il paye combien pour tout ça ?
Alors ça, c'est super important.
Oui.
Quand même d'en parler, le modèle économique. Nous, d'abord, on se positionne comme apporteur d'affaires vis-à-vis de nos partenaires. Ça veut dire qu'on émet sous tension par rapport au prix. On est en capacité de réduire, en fait, le prix de la location.
Donc à la maison, par exemple, la voiture livrée à la maison, c'est dans les 20 euros ?
Le service lui-même, c'est 20 euros, exactement.
Très bien. C'était Carl Lily, c'était votre solution du jour, Sébastien Guyot. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Moindreau. Sur Europe 1.
Merci à vous.
Et merci à Mathieu Davy, notre coach. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Call a Lawyer. Voilà pour ces astuces intelligentes et innovantes sur Europe 1. La France Bouge revient demain. Dans un instant, on fait le point sur l'actualité. Et puis à 14h, ce sera Christophe Ondelat avec l'histoire d'Éric Pérez, maton et fier de l'être. A tout de suite.